Ce matin, on est encore dans notre série qui est « Marcher sur le chemin divin ». La semaine dernière, on a partagé ensemble dans l'importance de s'engager sur ce chemin divin-là, de l'importance de prendre la décision de s'y engager. Cette décision-là doit être une décision qui est ferme. Je devrais probablement bientôt partager sur le fait que le chemin divin est un chemin de fermeté, est un chemin d'une décision qui doit être révocable. Et que Dieu, et on va regarder ensemble, que Dieu a souvent une pensée qui est linéaire. Trop souvent, nous, on a une pensée et la réalité, c'est qu'on ne voit pas très loin à cause des situations, même de nos capacités humaines. Mais que Dieu voit sur ce chemin divin quelque chose, une direction vraiment linéaire, voit loin. Et Dieu a un but à travers tout ça. Mais ce matin, alors qu'on a partagé cette décision-là d'y marcher, maintenant, alors qu'on est sur ce chemin-là, de penser que tout ira toujours bien sur le chemin divin est une mauvaise conception de ce qui est la vie chrétienne sur la terre. La Bible me dit qu'il y aura des combats, il y aura des tribulations, il y aura des situations particulières, il y aura des choses qui seront probablement difficiles, que ce soit familial, que ce soit au travail, que ce soit des situations, des choses qu'on n'avait pas vues, sur lesquelles on est engagé, sur lesquelles on a dit oui, que Dieu, on a senti la direction de Dieu à l'intérieur de nos vies, mais dans cette direction de Dieu, on s'est aperçu après un moment donné les situations qui pouvaient être difficiles. Et lorsque le peuple de Dieu se sont engagés sur le chemin divin, il y a eu des situations qui ont été difficiles, il y a eu des situations qui ont été compliquées. On voudrait que Dieu fasse les choses. On voudrait ne pas être impliqué. On voudrait ne pas faire partie de la solution. Alléluia. Mais on a besoin de faire partie de cette solution-là. Et lorsqu'on regarde, et le titre que j'aimerais donner ce matin, alléluia, c'est « Faire partie de la solution ». Marcher sur le chemin divin et de réaliser l'importance de faire partie de, à travers les situations compliquées, Dieu, on voudrait, comme j'ai dit, que Dieu fasse les choses, on prie, Dieu accomplisse l'affaire. Mais vous savez ceci, bien souvent, ce que Dieu va faire, c'est « je veux que tu fasses partie du résultat de ce qui va arriver à la fin. Je veux que tu sois celui qui fasse partie de cette solution-là. » C'est pas nécessairement plaisant, c'est pas nécessairement où on a toujours envie de faire partie de cette solution-là. Vous savez, je peux juste donner l'exemple, on voudrait prier que Dieu sauve des gens. Maintenant, Dieu dit, OK, je vais vouloir répondre à ta prière. Maintenant, je veux que toi, tu partes, que tu ailles, que tu témoignes mon nom de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli pour eux. Et à travers toi, tu es celui à travers qui je vais répondre à ta prière. Et dans nos situations de nos vies, que ce soit nos situations avec notre conjoint, que ce soit nos situations familiales, de travail, les situations dans l'Église, dans le monde dans lequel on est, on a besoin de réaliser, d'en faire partie de cela. On doit choisir de faire partie de la solution. Trop souvent, on voit les choses comme si ce n'était pas notre problème. Trop souvent, on regarde les choses comme si nous ne ferions pas partie du problème. Des fois, on peut dire aux gens, « Ah, c'est pas mon problème. Ah, c'est pas de ma faute, c'est pas mon problème. » Mais la réalité, c'est que probablement, alléluia, même si ce n'est pas la cause du problème, Dieu veut que, alléluia, tu réalises que tu fais partie du problème parce que Dieu veut t'amener à être celui ou celle qui va faire partie de la solution. Trop souvent, notre première réaction, c'est de penser que c'est la faute des autres. C'est la faute des personnes qui nous entourent. C'est la faute de mon épouse. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de... Et présentement, dans notre société, on est beaucoup à trouver les causes et les fautes, c'est à qui? C'est à cause de qui? Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions plutôt se mettre dans un mode de « est-ce que je peux faire partie de la solution? Est-ce que Dieu me mandate dans ma maison, dans mon foyer, dans mes enfants? » On peut dire « c'est à cause de mes parents, c'est à cause d'eux autres, parce qu'ils m'ont fait ceci, parce qu'ils m'ont fait cela. » Et cela n'empêche pas cette réalité-là. Et ne nous empêche pas de comprendre cette réalité-là. Mais si on ne va pas plus loin, on n'ira pas plus loin. Mais à travers ça, alléluia, on a besoin de réaliser des fois, on ne veut pas voir ou on ne faire partie de la solution, ou encore c'est comme c'est pas notre problème. Mais si on devient dans la réalité que ça devient notre problème, à ce moment-là, ça va nous exiger un changement de notre part. Ça va nous en demander de changer, qu'il y ait des choses qui soient changées et transformées à l'intérieur de nos vies. Ou encore, ça va nous donner, alléluia, d'être capable de s'asseoir, puis d'être capable de trouver et de prier et de demander au Seigneur la solution de ce que Dieu veut nous amener à faire. La réalité, c'est ce que tu penses qui n'est pas ton problème. La majorité du temps, c'est ton problème. C'est notre problème. À travers ça, alléluia, on a besoin de se poser la question, qui on est dans cette situation-là? Et ce matin, alléluia, Dieu veut nous amener à comprendre l'importance de faire partie de cela. Il y a le texte dans la parole qui nous parle de Néhémie. J'aime le cœur de cet homme-là, dans cette parole-là, où il parle dans Néhémie chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 6. Cet homme-là reçoit, dans ce texte-là, reçoit une dimension, reçoit des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem, des murailles qui sont en mauvais état, qui certaines places sont détruites, et il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Et alors que Néhémie, qui lui est à Suse, le texte nous dit que tout va bien, il sert le roi, il est les chansons du roi, il a ce qu'il y a de meilleur, il y a ce qu'il y a de mieux, mais lorsqu'il reçoit cette dimension-là, qui lui semble loin de tout ça, mais pourtant va demander des nouvelles des gens qui sont à Jérusalem. Et à ce moment-là, le texte nous dit que son cœur a été vivement touché, que son cœur a été vivement touché, dit au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'aimerais nous dire ceci. Quelle a été la dernière fois que nos cœurs ont été impliqués dans la dimension de celle de Néhémie? Quelle est la dernière fois que tu as été dans cette dimension-là pour ta maison, pour ton couple? Quelle est la dernière fois que tu as été pour ta ville, pour ta famille, pour tes parents, que tu as été dans la situation ou la dimension de ce que cet homme était? On était davantage dans la colère, on était davantage dans le reproche, on était davantage dans la culpabilité, de ramener, de ressasser, de simplement ramener certaines choses sans jamais nécessairement s'arrêter et permettre au Seigneur de déposer nos cœurs dans cette situation-là et de voir la douleur et la souffrance. Je pense que Dieu a pu déverser dans le cœur de Néhémie la douleur et la souffrance de ce que le peuple de Dieu vivait à ce moment-là à Jérusalem. La désolation que ce peuple-là, que son peuple dans lequel ils étaient à Jérusalem. Et là, il a commencé à prier, à reconnaître la grandeur de Dieu. C'est un Dieu redoutable qui garde son alliance, que Dieu est celui qui veut faire une œuvre. La foi de cet homme, la considération de cet homme a commencé à prendre place et à saisir de comment Dieu pouvait faire les choses. Il a jeûné, il a prié, il a demandé à Dieu, alléluia, Seigneur, quelle est la chose qui peut être faite? Seigneur, quelle est la solution? Et Dieu a démontré, a parlé à Néhémie, alléluia. Et le Seigneur l'a amené à ce moment-là à comprendre que Néhémie faisait partie de la solution. Et qu'il devrait quitter, alléluia, pendant quelques temps, pendant quelques mois, pendant un bout de temps de partir et de se rendre dans cette ville de la désolation. Et à travers ça, il a vu le miracle de Dieu. Il n'a pas été dans le jugement, dans la situation. Il n'a pas été dans le jugement où il a juste vu quelque chose, mais dans le texte, il va commencer, il comprenait que la situation dans laquelle ils étaient, c'est parce que le peuple avait marché dans le péché. Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Mais dans sa prière, c'est pas seulement « Seigneur, pardonne ce peuple-là méchant, puis pas bien. » Mais il dit « Alléluia » à ce moment-là, en confessant les péchés d'Israël, « Nos péchés, ils s'incluent. » On a péché contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. C'est comme si Néhémie prend la réalité et porte le poids de ce que le peuple dans lequel il était. C'était pas c'est eux et c'est moi, mais Seigneur, c'est nous. Dans notre monde où l'égoïsme prend un summum dans lequel on est. une importance d'un summum dans lequel on se retrouve dans notre société, où certaines choses sont faites et brisent d'autres vies par le principe de simplement d'égoïsme. Dieu nous appelle à prendre conscience. Vous savez, si on ne fait pas partie du problème nécessairement, alléluia, on n'est pas la cause du problème, on peut faire partie de la solution. Et cela a été vrai avec Dieu, avec Abraham et avec Adam et Ève. Alors qu'Adam et Ève avaient péché, alléluia, Dieu leur a fait des habits avec une peau. Il est celui qui les a couverts. Lorsqu'on regarde, alléluia, dans la parole de Dieu avec Jésus, Jésus est celui qui a été la solution au péché de l'humanité. Pourtant, il était sans péché. L'un des larrons sur la croix va comprendre dans Luc chapitre 23, le verset 36. Ça dit que les soldats, il y avait toute une atmosphère de moquerie où les gens, les soldats, les gens qui étaient là près de la croix se moquaient de Jésus-Christ. Le texte nous dit qu'il y avait même un larron qui se moquait, qui disait « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous » et le verset 40, mais l'autre lui reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice, nous on mérite ce que l'on reçoit, car nous recevons ce que l'on mérite, ce que méritent nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Ce larron est en train de reconnaître que Jésus est la solution, mais qu'il n'est pas la cause du problème. Quand Dieu a vu, alléluia, quand le Père a envoyé le Fils mourir sur la croix, il a pris part, il a porté le poids du problème de l'homme. Jésus, alléluia, a porté sur la croix non seulement la solution, mais le poids même du problème en soi. Ce que Dieu ne nous demande pas à nous. Dieu ne nous demande pas nécessairement de porter le poids du problème, mais nous demande de faire partie de la solution. Ici, l'idée de justice dans le texte, c'est le jugement. Alors, de l'importance de ce jugement-là, ou encore, il ne mérite pas. C'est-à-dire, nous, on mérite. On est digne de recevoir le châtiment. La dignité, c'est important dans ce qu'il est en train de dire, cet homme-là. Il dit, je suis digne de mériter la mort. J'ai la dignité de recevoir le châtiment. C'est quelque chose, là. Mais dis-lui, alléluia, il n'a pas cette dignité. Lui, il a la dignité d'être le roi, celui qui est sans péché, qui n'a commis aucun mal. À cela, on a besoin, alléluia, de réaliser comment Dieu est celui qui veut nous amener à faire partie. Plusieurs choses, alléluia. Ce que Dieu a mis en nous peut nous aider à faire et à amener une solution. Chaque petit geste peut faire une différence. Souvent, on regarde le grand coup, la grande chose, l'affaire importante. Mais la réalité, c'est ce que chaque petit geste, alléluia, a une importance. Vous savez, voilà 19 ans environ, alléluia, un homme qui s'appelait Serge Tremblay, alléluia, est celui qui a lancé un défi dans sa région, dans la région de Granby. Et cela était en 2001. Cet homme-là a lancé un défi. C'était un homme d'affaires qui avait été touché par l'ampleur de ce que des enfants étaient atteints du cancer. Et de ce que, à cause du cancer, voilà 19 ans où certains des enfants subissaient de la chimiothérapie, perdaient tous leurs cheveux. Cet homme-là a commencé à regarder et dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans son cœur, cette idée-là est venue de peut-être qu'on peut être capable de s'identifier, de faire une chose qui un peu leur ressemble. Et il a décidé de faire le défi tête rasée. Ce que certaines personnes s'apprêtent à faire. Jusqu'en 2017, alléluia, 85 000 personnes se sont rasées la tête en guise, alléluia, d'accomplissement et de solidarité à cette cause et aux besoins de ses enfants. Vous avez probablement vu cette annonce de cette petite fille qui a des lunettes et que lorsqu'elle arrive à la maison, à sa fête, tout le monde a des lunettes. Ou simplement un petit geste peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et cet homme-là, alléluia, est celui qui a choisi. Et en 2001, alléluia, 65 personnes dans l'année, alléluia, essentiellement dans la population de Granby et des environs, 65 personnes. Ils ont ramassé 10 500 $ à ce moment-là. En 2014, alléluia, le cap des 5 millions de dollars avait été dépassé. Et il y avait plus de 40 000 j'aime qui avaient, alléluia, pris place sur Facebook. Et 85 000 personnes jusqu'en 2018 s'étaient identifiées tête rasée. J'aimerais nous dire ceci, on peut regarder les choses comme si on n'en faisait pas partie. Mais pourtant, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous connaissons des gens, avons eu des gens autour de nous qui ont subi le cancer, qui ont été atteints de cette façon-là, qui ont subi ces choses-là. Et à travers ça, alléluia, on a pu voir des enfants, on a pu voir des personnes qui nous entouraient être atteints et d'être défiés à travers cette situation-là. Vous savez ceci? Ce qui est le plus important, ce n'est pas toutes les solutions, mais ce qui est le plus important, c'est de faire partie de la solution. Le plus important, ce n'est pas toutes les solutions que tu peux amener, mais le plus important, c'est toi qui vas faire partie de la solution. Dans Exode chapitre 4, verset 11, Dieu va parler à Moïse. Alléluia. Et Dieu va lui se révéler à lui, même à partir du verset 10. Il va se révéler à lui, alléluia, et va amener Moïse à vouloir et à faire partie de cette dimension-là à l'intérieur de sa vie. Pourtant, Moïse va simplement dire d'en choisir quelqu'un d'autre qui n'a pas les capacités, qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas la parole facile. Moïse va commencer à trouver des raisons pour ne pas faire partie de la solution. Mais à ce moment-là, alléluia, Dieu va dire, va donc, je serai avec toi. Je vais être ta bouche, je vais remplir ta bouche. Mais Moïse, alléluia, a continué à refuser jusqu'au point où Dieu, la Bible dit, s'est fâché et a emmené Aaron pour être avec lui. Il dit, vous lirez dans le texte, ça dit au verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Dieu dit, c'est toi qui vas dire à Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Et vous savez, ceci, on a besoin d'être là. Je veux mentionner rapidement, je vais le faire très rapidement, certaines choses que l'on a besoin pour faire partie de la solution. Premièrement, on a besoin d'être plein d'amour. On a besoin d'être prêt. Et l'amour, je parle de l'amour biblique, pas l'amour philéa, pas l'amour éros, pas l'amour, mais l'amour agapé, de celui qui aime pour qui la personne est. On a besoin d'apprendre à aimer. La Bible dit que Dieu a fait, Jésus même a été la solution et la raison principale était l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous. Sans jugement. Trop souvent, la pensée qui nous vient souvent, c'est de trouver un coupable. On se place comme un jugement. C'est qui a tort dans la maison? C'est qui fait pas bien dans la relation entre l'homme et la femme? C'est à cause de qui? La réalité, c'est que ça prend toujours deux personnes pour se chicaner. On a besoin de réaliser qu'on peut faire partie de cette solution-là. N'embarquez pas dans le jugement. Ne sois pas le juge de ta maison. Alléluia! Sois le père de ta maison. Sois le mari de ta maison. Sois l'épouse de ta maison. Alléluia! Sois le fils d'une maison, de ta maison. Sois celui, alléluia, qui a ton travail, est un serviteur à ton travail. Ne sois pas un juge. Jésus aurait pu condamner plein de gens. J'aurais pu vous sortir plein de textes dans la parole, dont ce texte-là, de cette femme, les pharisiens veulent la lapider, les gens veulent la faire mourir, puis Jésus, alléluia, va la préserver. Il va dire, celui qui est sans péché lance la première pierre. Et vous savez ceci, Jésus aurait pu le faire, lui, puis il ne l'a pas fait. Il aurait pu lancer une pierre, il aurait pu lapider cette femme-là à la mort. Mais il a reçu et offert le pardon à cette femme. Et alléluia, lui a demandé que sa vie soit changée. Va et ne pêche plus. Jésus pouvait être la solution de cette femme. Autre chose qui est importante pour faire partie de la solution, de ne pas être dans la comparaison et dans la compétition. J'aimerais qu'on puisse voir la prochaine photo. On a besoin de comprendre qu'on ne peut pas être, pour être capable de faire partie de la solution, on ne peut pas être dans la comparaison. Ne faites pas les choses pour être le meilleur. Ne faites pas les choses pour avoir raison. Ne faites pas les choses parce que vous voulez que les gens vous reconnaissent. Ne faites pas les choses parce que souvent, dans l'arrière-plan de notre vie ou de notre cœur, on veut faire les choses pour une certaine reconnaissance, une certaine de ce que les gens vont dire, vont apprécier. Des fois même, on est là, et dans l'Église du Seigneur même, des fois c'est là. On essaie, on regarde les choses avec comparaison, on se compare les uns aux autres. Le seul but de tout cela, alléluia, c'est qu'on grandisse ensemble, qu'on apprenne les uns des autres, qu'on soit un encouragement les uns pour les autres, alléluia, qu'on puisse être une bénédiction les uns pour les autres. Mais l'Église n'est pas là pour être dans la compétition. L'Église n'est pas là pour être dans la comparaison. Jésus ne voulait pas 12 pierres, un avant-masse. Puis il ne voulait pas 12 gens, un c'était en masse. Mais il avait besoin d'un Jean, d'un Pierre, d'un Jacques. Alléluia. Et vous savez ceci? Il a même eu besoin d'un Judas, parce que ça prenait quelqu'un pour le vendre. On a besoin de comprendre qu'on peut être de là. Et trop souvent, les gens ont besoin, mais on regarde juste la compétition. Autre chose, ne vivez pas dans l'offense. Trop souvent, on vit dans l'offense et on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Ne vivez pas, je le dis encore, ne vivez pas vos relations dans l'offense. Ne vivez pas les relations avec les gens qui vous entourent dans l'offense. Vis pas ta relation de couple dans l'offense de ce qui t'a fait, t'a pas fait ou qui aurait dû faire. Parce que tu vas être toujours là-dedans. Parce que tu vas être toujours dans cette dimension-là. Sers pas Dieu, alléluia, dans l'offense. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, un jour ou l'autre, qui te dira quelque chose. Je m'en allais dire, qui te dira une niaiserie. Qui te dira quelque chose qui fera pas ton affaire. Qui va faire quelque chose que tu n'aimeras pas, que tu ne comprendras pas, que tu ne penseras pas, puis que tu imagineras peut-être. Ne vivez pas vos relations dans l'offense. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Permets au Saint-Esprit de te diriger dans la solution. Voir la solution de Dieu, alléluia. Trouver, Seigneur, montre-moi ta solution pour faire partie de la solution. De Dieu, on a besoin d'ouvrir notre cœur à la solution de Dieu. On va le trouver dans la parole, dans la prière, dans notre communion, notre intimité, notre relation. De là est l'importance de prendre un moment avec le Seigneur de façon régulière, quotidienne, de lire notre parole, d'ouvrir nos cœurs, pas seulement d'aller dans la dimension d'entrée, de dire nos requêtes et d'en sortir, mais d'ouvrir une dimension d'ouverture de ce que Dieu peut parler à nos cœurs. Veillez à ce que la chair ne domine pas. Veillez à ce que la chair ne prenne pas place. On a besoin, alléluia, ne permets pas à la chair de dominer ta relation, parce que tu ne pourras pas faire partie de la solution. Tu vas probablement faire partie de ce qui détruit. La Bible parle que c'est possible pour une femme de détruire sa maison. Puis, messieurs, je veux vous dire que c'est très facile pour nous autres aussi. Mais Dieu nous appelle à construire la chair a des désirs à celle contraires à celle de l'esprit. Ça est vrai dans nos dimensions de vie. On a besoin d'être une équipe. Tu as besoin de voir si tu veux faire partie de la solution. Tu as besoin de faire partie de l'équipe. Sinon, tu ne peux pas faire partie de la solution. Tu ne seras pas celui qui va être le seul. Je vous dis que des Superman, que des super woman, de toutes sortes de ce qui est super là. Dieu n'a pas besoin de ça, mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont faire partie de l'équipe, qui vont servir ensemble. Dieu n'avait pas besoin de un qui était pour changer le monde. Dieu en avait besoin de 12. Et rappelons-nous que Dieu est toujours le capitaine de cette équipe. Ésaïe 6:8 dit, « J'entendis la voix du Seigneur. Alléluia, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Je veux juste dire ceci dans un moment aussi intense où la gloire de Dieu, où la gloire de Dieu remplit le temple. À ce moment-là, on aurait pu s'attendre de ce que Dieu dise, toutes sortes d'affaires glorieuses de sa grandeur, de sa majesté. Mais alors que la gloire remplit le temple, Dieu fait une demande à Isaïe. Qui marchera pour nous? Qui va être celui qui va être une partie de la solution pour mon peuple? Qu'est-ce qui est le plus important? Gagner, avoir raison, ne pas perdre la face ou de finir ensemble? On va voir une vidéo dans la suite juste pour être capable d'illustrer cette pensée-là. Cet homme-là, ce jeune homme-là, a choisi de ne pas gagner la course pour amener son frère jusqu'à la ligne d'arrivée. Cet homme-là aurait pu, ce jeune homme-là aurait pu gagner la course, être le héros de ce moment-là. Et il a choisi. Vous savez ceci, il y a un jeune homme vert qui va le dépasser, qui va aller, que c'est lui qui va gagner la course. Mais la réalité, c'est celui qui était en avant, qui était à quelques mètres de la ligne d'arrivée, c'était celui qui était pour gagner, mais à cause de son état, n'aurait pas fini la course. Et c'était son frère qui était là. Il y avait dans ces trois-là une compétition qui, je suis prêt à gagner. Je veux gagner. Mais celui qui faisait partie de la famille, c'est, je ne laisserai pas un demi en arrière. J'abandonnerai personne en arrière. Je vais faire partie de la solution, alléluia. Et lorsqu'on regarde, mais j'ai l'impression que quand il arrive, il laisse passer son frère pour qu'il soit le deuxième à la ligne d'arrivée. Il est prêt à aller jusque-là, à être le troisième, alors qu'il aurait pu être le héros de la place, devient être celui, alléluia, qui passe le troisième de la ligne d'arrivée. Il va soutenir son frère qui, sans lui, n'y arrivera pas. Je veux pas seulement gagner la course, mais je veux être la solution, alléluia, pour amener les autres à la ligne d'arrivée, d'être capable de gagner la course. Et pour cela, on a besoin de marcher dans l'unité. Dans Matthieu 12, verset 25, ça dit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même. » Et le terme est fort, ça dit « dévasté ». Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Frère, si tu ne fais pas partie de la solution, sœur, si tu ne fais pas partie de la solution de ta maison, ton foyer va être dévasté, ta maison va être dévastée, ta famille va être dévastée, ton emploi va être dévasté, et tu vas passer aux côtés de ce que Dieu veut et de ce que Dieu a pour toi, mon frère, ma sœur, de ce que le Seigneur aurait voulu faire, de ce que Dieu aurait voulu accomplir. Et si on est prêt, alléluia, à marcher et à faire partie de la solution, pas pour avoir raison, pas pour être gagné quelque chose, pas parce que c'est moi qui voulais démontrer qu'il était le meilleur, mais parce que Dieu, alléluia, est celui qui va le faire, parce que Dieu est celui qui veut l'accomplir. Fait partie du miracle et de la créativité de Dieu. Je veux juste nous amener dans une pensée ce matin. Je n'irai pas loin dans tout ça parce que je veux juste vous amener dans une pensée importante qui est celle-ci aujourd'hui. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, Dieu va faire des choses aussi créatives que jamais personne ne peut imaginer avec des hommes et des femmes dans la parole. Par exemple, on peut penser à Abraham qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais que Dieu, à travers un homme et une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, Dieu va faire sortir une grande nation. Abraham était celui, sa femme était celui de ceux qui étaient la solution. Moïse, qui était condamné à la mort, parle alléluia à cette femme-là qui va déposer son enfant dans un panier. Elle va voir, elle va être l'outil dans la main de Dieu, elle va être la solution pour préserver, donner à Dieu l'opportunité de préserver Moïse et de faire de Moïse David ou même son père n'avaient même pas imaginé que Dieu pouvait faire de lui un grand roi. David était celui qui a fait partie de la créativité de Dieu. David est celui que jamais personne aurait pensé, imaginé tuer Goliath avec une fronde. Mais David, alléluia, est celui qui a fait partie de l'imagination et de la créativité de la part de Dieu pour tuer l'un des hommes les plus puissants corporellement de son temps, alléluia, avec une fronde. Gédéon de gagner une bataille avec 300 hommes. Jamais personne. Ruth d'avoir un mari qui était beau, qu'elle aurait un mari qui s'appellerait Boaz, dont jamais Naomi n'aurait pensé ou imaginé. Daniel dans la fosse au lion. Jamais personne n'aurait pensé que Daniel en ressortirait. Meshach, Shadrach et Abednego. Jamais personne n'aurait pensé, alléluia, que Dieu aurait la créativité de faire que ces hommes ressortiraient de ces endroits-là, que même leurs vêtements ne sentiraient pas. On aurait pu parler, alléluia, de Néhémie avec la construction de la muraille. On aurait pu parler d'Élie et plein de situations dans la vie d'Élie. Dieu a fait des choses que jamais personne n'aurait pensé. Personne n'aurait pensé que Moïse, non seulement serait préservé, mais que sa propre mère prendrait soin de lui. Parce que la fille de Pharaon le renverra à sa mère. Et le fait partie du miracle. Moïse dans la délivrance du peuple, le passage de la mer Rouge. Ces hommes ont fait partie de la solution. Dieu a voulu délivrer le peuple d'Israël des Égyptiens. Mais à ce moment-là, alléluia, Dieu avait besoin d'un homme pour aller se tenir devant Pharaon. Et Moïse est celui qui en fait partie. Et Moïse a vu les miracles, les prodiges de Dieu, autant dans le désert, dans le fait que Dieu les a nourris, leur a donné à boire. On peut penser à Pierre et à Jean, qui à travers cela ont vu la gloire de Dieu alors que cet homme-là, il demande le monde. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, la solution que j'ai, alléluia, c'est Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez ceci, pour vaincre et gagner, pour être la solution, on a besoin de marcher et d'être ensemble. On a besoin de saisir ce que Dieu a pour nous et de ce que Dieu veut accomplir. J'aimerais vous parler un instant, peut-être vous les connaissez, de cette équipe d'hockey. Qui dans cette équipe d'hockey, alléluia, c'est le chandail, une réplique exacte. Un chandail qui s'est porté, alléluia, en 1920. Par des hommes qui ont servi, qui sont allés à la guerre, juste avant. En fait, la réalité est celle-ci. C'est que ces hommes, cette équipe-là, s'appelait les Falcons. Et c'est les Falcons de Winnipeg. Cette équipe-là a commencé, a été fondée en 1909 et a disparu en 1925. Et elle était composée essentiellement, ou sinon presque juste, d'Irlandais. Et ces gens-là qui sont allés, alléluia, qui ont fait une série, ils ont gagné tout plein de games jusqu'à temps qu'ils se retrouvent en 1920 aux Jeux olympiques d'été, où il y avait une compétition, où il y avait, à ce moment-là, parce que ce n'était pas passé jusqu'à maintenant, pour le hockey, même si c'était en été. Et ces hommes-là sont allés, mais la réalité, on va voir une vidéo juste pour qu'on comprenne, ça dure juste une couple de minutes, juste la prochaine vidéo, pour qu'on saisisse et qu'on comprenne. Ça, c'est la photo de l'équipe, juste la vidéo d'après. Encore. Juste l'autre. Juste l'autre après, frère. Juste monter le son pour qu'on entende bien.
C'était pas toujours facile pour les jeunes Islandais qui ont grandi à Avenue Sargent et dont personne ne voulait. Mais le hockey était notre jeu. On va aller se battre, George! Seulement si Connie s'enroule aussi. Quand la guerre a commencé, ça a mis fin à l'équipe. On avait besoin de nous et on s'est battu. Ça nous a coûté cher. J'ai mieux pas pensé. Le coût total. Mais je sais une chose. Pour ce qui est de se battre, on est là, pas vrai? Et on est capable de gagner ce match. Pour nous. Pour le Canada. Pour nos frères de la rue Sargent.
Les Falcons de Winnipeg se sont battus pour le Canada pendant la Première Guerre mondiale. Deux membres de l'équipe sont morts au combat. À son retour, le reste de l'équipe a gagné la toute première médaille d'or de hockey olympique.
Et ces hommes, c'était des hommes qui, en fait, ont été contestés parce que c'était pas aux yeux des gens. Il y avait un raciste qui était là, des vrais Canadiens à leurs yeux. Mais parce qu'ils ont gagné tout ce qui était auparavant. Je ne prendrai pas le temps, on n'a pas le temps qui est là, mais ils ont gagné à des scores de 12 à 1. La seule équipe, je pense, c'est 2-0 contre les États-Unis. Les autres, c'est des scores de 10, de 12. Je pense même qu'il y a 15 à 0. Ils ont gagné la médaille d'or. Parce que ces hommes, alléluia, ont été ensemble. Ils sont devenus la fierté pour un pays. Ils ont été à la guerre. Deux de leurs qui étaient sur cette équipe-là, parce qu'ils étaient avant la guerre, ils sont allés, alléluia, à la guerre. Ils ont choisi, avant juste la fin d'une année de match, j'ai les dates, là, mais ils ont, un, décidé, j'ai besoin d'aller à la guerre, d'être allé, puis de servir mon pays. Et ça le fait qu'ils sont tous allés à la guerre. Presque. Puis il y en a deux qui sont morts. Et quand ils sont revenus, en 1919, je pense, ils ont recommencé à jouer au hockey ou juste un peu avant. Les années juste au... Pardon? Alors, quand la guerre a terminé, ils ont remis leur chandail, qui n'était pas celui-ci. Mais au moment de lui d'aller aux Olympiques, c'est le chandail qu'ils ont porté, avec le drapeau du Canada dessus. La feuille du Canada dessus, représentant leur pays. Et ces hommes ont été la solution pour préserver, alléluia, notre pays, mais aussi, alléluia, pour la fierté de notre pays. J'aimerais vous dire ceci, alléluia, quel chandail portez-vous aujourd'hui? Quel est le chandail que vous portez dans votre maison? Les pères de cette église, quel est le chandail que vous portez dans votre maison? Mesdames, quel est le chandail que vous portez dans vos foyers? J'aurais pu vous montrer une photo d'une robe de juge. J'aurais pu vous sortir plein de choses, mais voici le chandail que moi je veux porter dans ma maison. Celle qui est prête à aller à la guerre pour eux. Alléluia, celui qui est prêt à me battre pour ma famille. Pas me battre contre ma famille, mais me battre pour ma famille et avec ma famille. Alléluia, d'être capable simplement de trouver, d'avoir une fierté de ma famille, d'avoir une fierté dans nos maisons, dans notre église, pour le royaume de Dieu, alléluia, pour l'avancement de l'église de Christ, pour l'avancement des enfants à travers la société, de ce qui nous entoure, alléluia, en tant que peuple de Dieu, d'église de Dieu, dans le monde dans lequel on est, alléluia, où je dirais ceci, la société a besoin plus que jamais, pas des gens qui sont des condamnateurs, mais des gens qui sont prêts, alléluia, des chrétiens qui sont prêts à aller à la guerre, pas contre les êtres humains, pas contre les personnes, mais la Bible dit, alléluia, contre les esprits mauvais, et se battre. Je termine en disant ceci aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu choisisses quel chandail tu vas porter pour ta maison, pour ton foyer. Peut-être as-tu été blessé, peut-être que tu as vécu des choses. Et vous savez ceci, on aura toujours besoin que quelqu'un porte le chandail pour nous. J'aurai besoin que quelqu'un porte le chandail pour nous. Dans ma maison, avec mon épouse, mes enfants, j'aurai besoin qu'ils mettent ce chandail-là un moment donné pour moi. Et j'aurai besoin de le mettre pour eux. Et vous savez ceci, si eux le portent et moi le porte, qu'est-ce qu'on est? On est une équipe qu'on peut gagner ensemble. Vous et moi, peuple de Dieu, ensemble, l'Église de Dieu, dans cette Église, chacun d'entre nous peut porter ce chandail. Chacun d'entre nous, alléluia, peut le prendre et le mettre sur ses épaules et de dire, ce chandail-là deviendra le mien, deviendra le chandail que moi j'ai choisi de porter. Mais pour cela, alléluia, ça ne sera pas quelqu'un d'autre qui le revêtira à votre place. Mais vous serez celui, ceux et celles qui choisiront de le mettre et de le porter. Mais quand quelqu'un vous regardera, il vous reconnaîtra comme quelqu'un des leurs. Vous serez quelqu'un à qui il pourra faire une passe. Vous serez quelqu'un à qui, alléluia, il va savoir que tu veux gagner pour le même but, tu veux aller pour le même endroit, tu veux avoir la même finalité à l'intérieur de ta vie. Il est temps qu'on arrête de mettre des chandails différents dans nos maisons. Il est temps que l'Église de Dieu arrête de mettre des chandails différents dans leur Église. Il est temps que le monde, alléluia, puisse voir, et la Bible dit ceci, si je peux juste prendre ce texte-là et l'amener d'un matin, alléluia, à ce chandail-là, le monde reconnaîtra, alléluia, quand on sera des enfants de Dieu. À ce chandail-là, alléluia, le monde entier pouvait reconnaître que des hommes avaient choisi de servir, de travailler, et alléluia, de jouer pour le Canada. Bien même que certains dans le Canada n'en voulaient pas. Savez-vous ce qui me surprend dans ça? C'est alors qu'il y avait du racisme et que leur équipe n'était pas reconnue pour jouer dans la ligue, ils ont choisi d'aller combattre pour ce pays dans lequel ils ne voulaient pas qu'ils jouent au hockey, dans la ligue dans laquelle ils étaient. Est-ce que tu es prête à faire ça? Je vais vous dire ceci, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et il était ensemble, dans nos maisons, alléluia, dans nos églises, dans nos environnements, d'être celui qui va faire partie de la solution. Je veux te dire aujourd'hui que si ton épouse a un problème, messieurs, Marie, tu as un problème. Que épouse, si ton mari a un problème, tu as un problème. Et savez quoi la beauté de la chose? C'est que lui, on peut faire partie de la solution. De la solution de qui? De la solution de Dieu. Que peut-être toi t'en vois pas, que peut-être toi t'en imagines pas, que peut-être toi t'en vois pas de solution. Mais je veux dire que Dieu en a une, parce qu'il est un Dieu créatif. Alléluia, parce qu'il est un Dieu de miracles, et que l'on peut faire, de choisir, de faire partie, alléluia, de la créativité de Dieu. Que Dieu nous amènera à faire ce que jamais même personne n'aurait pensé qu'on devrait faire. D'aller comme Gédéon, d'aller combattre une armée entière avec seulement 300 soldats, avec seulement, alléluia, 300 ensemble, avec des cruches de feu, puis les trompettes, puis de tout ça. Puis qui gagnerait la bataille, seulement Dieu avait imaginé que 300 hommes pouvaient vaincre l'une des armées les plus puissantes de son temps. Seigneur, ce matin, on veut te prier afin que tu nous aides à revêtir qui tu es. Ta parole nous dit de revêtir Christ. Et Seigneur, lorsque je parle de revêtir ce chandail, je ne fais pas référence à un chandail, même celui-ci. Mais je parle de te revêtir, toi, Seigneur. Être revêtu de qui tu es, ton amour, ta grâce. Seigneur, d'être cette solution dans laquelle toi, tu as été pour nos vies. Tu as été, Seigneur, pour nos maisons, pour nos foyers, pour nos vies personnelles, pour ce monde. Seigneur, on a lu la semaine passée que tous les jours, tu as tendu les mains à un peuple qui ne voulait pas. Mais on a choisi, ils ont choisi. Tu as choisi, Seigneur, de tendre les mains vers ce peuple. Apprends-nous dans nos vies quotidiennes, dans nos vies familiales, de revêtir. Si on a été blessé, si on a vécu des choses, Seigneur, donne-nous de ne pas vivre dans l'offense. Donne-nous, Seigneur, de ne pas vivre dans seulement les causes de... Puis Seigneur, c'est à cause de lui, puis à cause d'elle, puis si elle a change, puis s'il ne change pas, Seigneur, apprends-nous, alléluia, à réaliser que tu es le Dieu qui veut faire de nous une solution dans le monde dans lequel on est, pour nos propres maisons, pour nos propres familles. Seigneur, peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a vécu des choses, peut-être qu'on a été rejeté. Seigneur, je ne pense pas qu'on a vécu ce que toi, Jésus, tu as vécu. Et pourtant, tu as donné ta vie pour nous. Pourtant, tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, tu demandes d'être pour nos épouses ce que toi-même tu as été pour ton Église. Aide-nous, Seigneur, à être les uns pour les autres, de se reconnaître, que le monde reconnaisse au chandail que l'on porte, à Jésus-Christ qui nous revêt à l'intérieur de nos vies. Seigneur, aide-nous d'aller jusque-là. Aide-nous, Seigneur, d'aller plus loin. Parle à nos cœurs durant cette semaine. Au nom de Jésus, nous prions.